ça me piscine ne baisa pas à 5 ans. Il n'y a pas de piscine à 5 ans. Et après cela, on a découvert les 5 portiques et on a vu qu'il y avait une réalité matérielle. Autre explication, celle de Bultmann, c'est que, au fond, peu importe ce que j'ai vu, qu'il ait vécu, sans doute, on ne peut certainement pas retrouver ces mots, le discours que lui a fait, pour la bonne raison que tous ces discours ont été retransmis, retravaillés, et même composés de toutes pièces, surtout chez saint Jean, par les évangélistes et notamment par Jésus. Et donc, la vision que nous donne Jésus dans l'évangile de Jean est une vision tout entière mythique. C'est pas tellement du symbole qu'il s'agit, c'est du mythe. Ce qui veut dire, il nous dit des réalités essentielles, mais comme si Jésus les avait réalisées. Donc, Jésus n'a pas de consistance historique en lui-même. Jésus est l'image du révélateur. C'est ce que dira Bultmann. Il est l'image du révélateur divin. C'est-à-dire ce que tout un chacun voudrait bien découvrir au fond de sa conscience. Il n'a pas utilisé le terme de surmoi, mais c'est un petit peu ce que Freud regarde comme étant le surmoi. Une sorte d'image type, d'image idéale de ce que l'homme désire. Une sorte de projection, mais mythique, qui n'a pas de consistance historique. Une sorte de projection de lui-même.
Projection des existences sur.
Ça. C'est-à-dire des réalités fondamentales auxquelles l'homme est affronté. Une réalité qui est vraiment existentielle pour moi, mais qui est existentiale, comme le dira Bultmann, c'est-à-dire qui domine absolument toute l'histoire de tout un chacun. Et donc, pour ceux qui tiennent par exemple la réalité symbolique, il y a encore des commentateurs modernes qui vont dans ce sens-là. Ils vous diront, les choses se sont expliquées de manière purement naturelle. Et alors, à partir d'une réalité naturelle, je dis bien naturelle, pas historique, naturelle, courante, alors à partir de là, on va, en quelque sorte, fabuler, et on va symboliser. On va maintenant partir dans un monde de symboles. C'est par exemple à propos de la multiplication des pains. Vous voyez que l'évangile ne parle pas de multiplication des pains, il parle de distribution des pains. Parce que nous en faisons une multiplication. Eh bien, on va vous dire, mais s'il faut expliquer ça très simplement, il y avait là un petit gars qui avait pris ses tartines pour pique-nique. Et puis, voyons l'insistance de Jésus et l'embarras des disciples. Je dis, bon, j'ai bien quelque chose, on peut peut-être l'apporter. Et tout le monde a fait pareil. C'est là, ce qu'on appelle la théorie, oui, matérialiste ou du panier repas. Lunch basket theory, disent les Américains. La théorie du panier repas.
Faut pas faire ça à cloque le soute.
Non.
Pourquoi? J'ai pas vu l'an passé avec les... Sur la plage, chacun sort son rideau portatif.
Et alors, on fait voilà, plus de téléphone. Voilà. Mais au lieu d'aller manger au restaurant de Jésus, chacun sort son rideau. On est en train. Jésus, les apôtres, donne un exemple, ceux qui sont proches de Jésus, et alors la valeur de ce texte,
est une valeur, oui, de plus en symbolique. Une valeur exemplative. Il ne faut pas penser que Jésus a marché sur l'eau, bien entendu. Après qu'il a marché au bord de l'eau, il a appelé. Vous voyez bien qu'il a marché au bord de l'eau, puisqu'on était déjà au rivage. Donc c'est une explication de type matérialiste, puisque la réalité est symbolique, il faut dire que l'évangéliste a tiré d'une réalité tout à fait normale, naturelle, un sens. Le danger d'une théorie comme celle-là, c'est qu'elle ne fait pas de lieu, elle ne laisse pas de lieu pour l'histoire, la réalité de l'histoire. Or, même si, comme le disait Loisy, les textes sont composés à partir d'autres textes, dont souvent des textes d'Ancien Testament, qui reviennent en mémoire, cependant, on ne répète pas les textes d'Ancien Testament. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents et auxquels il faut faire attention. On localise les faits. On ne met pas n'importe où. Il se trouve sur telle rive du lac, ou bien dans la proximité de Capernaum, ou bien près de Tibériade, et on localise. Bon, bien sûr que cette localisation pourrait être imaginée. On donne cependant des noms aussi aux personnages. Pas à tous, nous avons vu. Et on ne peut pas oublier que Saint Jean est symboliste. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments humains. Et regardez par exemple la fameuse piscine à Saint-Cortique, elle n'a pas été inventée. Donc il y a quand même des souvenirs précis qu'on ne peut pas évacuer complètement. Mais le problème, c'est de savoir quel traitement l'évangéliste fait subir à ces événements historiques. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est exactement passé. À l'interprétation mythologique, qu'est-ce qu'on peut apporter comme contradiction, ou bien comme mise en question? Donc, dire qu'il y aurait là une construction tout à fait légendaire, soit sur une base de texte d'Ancien Testament, soit sur base d'une projection, d'une image que l'on se fait d'un Dieu qui viendrait au sein de l'humanité. Et donc, est-ce qu'il nous faut vraiment démythiser et nous dire que Jésus est l'image que l'on se fait de la sagesse de Dieu comme maître de vie? Ça, c'est un peu la théologie de Boutmar. En disant que l'évangéliste ne nous dit pas ce que Dieu a fait, mais il nous dit ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus, mais il nous dit ce que Dieu est pour nous. Mais là aussi, nous pouvons dire que ce que dit Jésus, notamment dans son discours après la scène, n'est pas du tout de l'ordre de ce que attend un juif. Parce que dire qu'on va donner sa chair à manger, son sang à boire, c'est une horreur, c'est une abomination. Alors, c'est là qu'il y a une question fondamentale. À la fois, le juif est capable de comprendre mieux que nous ce que signifie donner son corps à manger et son sang à boire. Et cependant, le juif est celui qui peut, qui doit normalement, freiner de la manière la plus forte, parce qu'il ne peut pas comprendre cela. C'est tout à fait imbuvable, c'est le cas de lui. Le sang est imbuvable. Donc il y a quand même une limite à la mythisation. On ne peut pas dire qu'un milieu juif et pu mitiger cela à partir des données préalables. Il y a un élément irréductible, en quelque sorte. Et vous verrez que, le père de la poterie notamment, s'est attaché beaucoup à ce texte
c'est le père Léon Dufour qui fait allusion dans son livre, Saint-Jean, à partir du chapitre, à propos du chapitre 6e. Le père de l'apôtrie a essayé de montrer qu'il y a dans ce texte des réalités qui sont tout à fait irréductibles à la mentalité juive de l'époque. Mais il a bien marqué aussi les limites de notre analyse du texte pour déterminer ce qui se serait exactement passé. Oui, nous avons des faits d'histoire. Le fait que nous ayons des faits d'histoire au départ nous est donné dans un signe qui est celui de la répétition. Saint Jean n'est pas le seul à nous parler de ce que nous appelons multiplication des pains. Mais il ne donne qu'un récit. Luc aussi en parle, mais il ne donne qu'un récit. Matthieu et Marc en parlent, et ils donnent tous les deux récits. Un du côté juif, un du côté païen. Et dans tous ces récits de la multiplication des pains, vous avez toujours une allusion au rite de la dernière scène, ou de l'Eucharistie. Donc il est impossible de réfléchir à la multiplication des pains sans en même temps voir cette dimension eucharistique. Mais il est aussi impossible de déterminer en les séparant ou en les distinguant ce qui s'est exactement passé comme phénomène et comment les choses ont été reprises par l'Église primitive dans la réalité eucharistique. Il n'est plus possible de détacher une dimension, la dimension historique, de l'autre. Or nous, qui sommes des gens du XXe siècle, nous voudrions bien dissocier. Pour nous rendre compte, en quelque sorte, par nous-mêmes, de ce qui est exactement passé. C'est-à-dire, pour écarter quelque peu les témoins et pour voir nous-mêmes. Or, nous dit l'Évangile, c'est pas possible. La foi ne peut pas faire l'économie des témoins. Et nous nous trouvons devant des témoins qui nous disent plus qu'un fait historique. Ils nous disent le fait historique et tout ce qu'il a suscité, tout ce dont il a été porteur. Alors, le père de la poterie essaie de déterminer un certain nombre de critères à partir desquels on peut tester, en quelque sorte, la véracité historique d'un récit. Pas facile. Alors, la première chose qu'il donne, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une attestation multiple. Quand le même fait est rapporté, parfois de manière différente, mais par divers évangiles, et donc par des traditions différentes, on doit se dire qu'il y a quand même au départ quelque chose qui a fait même surgir deux traditions. Prenez par exemple la naissance de Jésus, et ce qui est dit de la virginité de Marie, se trouve annoncé par deux évangélistes très différents, avec des perspectives très différentes. Et pourtant, là, il y a quelque chose de commun. Saint Jean, mine de rien, dans son prologue, nous dit quand même quelque chose qui a été interprété, probablement légitimement, par l'Église primitive, comme étant une allusion à la maternité virginale. Il dit de sang, il dit par volonté d'homme aimé, mais par Dieu, a été rejeté. Donc, une attestation multiple. Un autre argument que emploie le père de la doctrine, et qui n'est pas facile à évaluer, c'est ce qu'il appelle l'argument de discontinuité. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là que vous ne trouvez pas la même séquence dans tous les évangiles. À vais vous prendre un exemple de l'évangile de Jean. Oui, il est plus ici, au tableau. Le fait, par exemple, de la purification du temple. Donc, vous voyez bien que la purification du temple est mise en contact avec la purification des Juifs et le dépassement de cette purification. Cana et le temple sont mis en parallèle. Les évangélistes, les identiques, le mettent à un autre. Alors, du fait qu'ils l'ont mis à deux endroits différents, peut-on conclure que ça ne s'est pas passé? Le père de l'apôtre dit au contraire. S'ils le mettent à deux endroits différents, ils veulent donc sauver un élément tout en lui donnant deux portées différentes. Vous prenez par exemple chez saint Luc. Il ne nous parle pas de la femme qui oint les pieds de Jésus à Béthanie avant la Passion, mais il nous parle d'une femme qui oint les pieds de Jésus chez Simon le Pharisien au chapitre 7. C'est ça qu'il entend par discontinuité.
J'ai écouté ce qu'on appelle l'évangile de vie de Jésus. Alors on a l'impression qu'on en vit date, qu'on déclare en fonction du temps, mais pas en fonction de la chronologie.
C'est ça. Or, le père de la poterie, je crois qu'il a raison, nous dit, la discontinuité est signe de quelque chose. Non pas de la chronologie, n'est pas la continuité historique chronologique de la vie de Jésus, mais des faits précis de la vie de Jésus qui ont pris un sens, et parfois un sens divers, dans telle tradition. Mais on ne laisse pas tomber. Vous voyez donc c'est un argument, bon, pas absolu, mais qui a aussi sa valeur.
Il y avait tant de temps dans ce fait qu'il a été construit.
C'est ça.
Différents témoins ont vu la même chose, mais ne l'ont pas ressenti pareil.
Ils ont perçu quelque chose au départ, bien qu'il soit difficile de redire exactement ce qui s'est passé phénoménalement au départ. Troisième élément que donne le père de la poterie, je vous donne ça parce que ça me paraît l'étude la plus complète là-dessus. Il s'est attaqué précisément à ce texte. C'est ce qu'il appelle la cohérence. C'est que ce qui est cité est le phénomène ou le miracle ou la guérison au point de départ est toujours cohérente dans la totalité de l'évangile. Il n'y a pas d'incohérence dans un fait. Donc, ce que vous retrouvez, par exemple, dans un miracle, vous le retrouvez dans la majorité des miracles. Il n'y a pas de fait qui soit tout à fait à l'opposé. Attention s'il y a des fenêtres ouvertes.
Vous avez souvenir.
Oui, c'est un souvenir. Souvenir, c'est des signes. Et alors, il dit... Il y a un quatrième critère qui pour lui est plus difficile à utiliser et à bien évaluer encore, c'est ce qu'il appelle le critère d'explication, c'est-à-dire la manière dont c'est expliqué dans les évangiles. Alors, il nous dit bien, il n'y a aucun de ces critères qui peut être pris séparément des autres. Il faut toujours tester un fait évangélique à partir de ce fait, mais en le comparant à tous les autres de même nature. Et vous avez par exemple, pour les miracles, d'autres textes de miracles, qui sont des textes qui existent à propos de rabbins, dans la vie des rabbins, on parle certainement des miracles, de multiplication des pains, des guérisons merveilleuses, hein, ce n'est pas dit que de Jésus, là. On les raconte aussi d'autres personnes. On raconte aussi des guérisons, surtout des guérisons, de guérisseurs grecs, hellénistiques. Et donc là, il y a toute une comparaison des explications qui sont données. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on avance comme explication des faits. Et souvent, il y a dans ces guérisons toute une part légendaire, comme probablement dans la mise en œuvre de la vie de Jésus. Alors vous voyez, des gens comme François Sapotri, parce qu'il n'aime pas ce vocabulaire-là, des gens comme Pierre Collomb, qui s'est penché sur la question, va distinguer deux choses. Bon, je ne sais pas vous quel mot, je vous la donne. Il distingue l'aspect historique des événements, c'est-à-dire ce qui est irréductible, ce qui résiste dans le texte à nos investigations, et donc qui doit bien remonter à un fait de la vie de Jésus, même si nous ne pouvons plus le dire aujourd'hui. Et puis, il y a un autre mot qu'il appelle historial. Et historial, c'est la symbolique qui a entouré dès l'Église primitive ce fait, et qui en a donné tel ou tel type d'explication. Mais toujours référé à Jésus. Toujours référé à Jésus. Et toujours en relation avec la résurrection. Ça, c'est important. Tous les miracles sont toujours référés, soit par un mot évêquois, brestois, qui sont les mots de résurrection, font toujours appel à la résurrection. Non pas comme symbole, mais comme réalité. Alors, voyez, un des beaux textes que nous avions tout à l'heure, c'est la remise en état du paralytique, hein, de la piscine, de Bézard. Vous voyez bien que tout est mélangé. Il y a à la fois des éléments concrets, même l'ange qui vient muer la pierre là, pour faire surgir l'eau, donner un mouvement dans l'eau, et on a trouvé un élément historique. Faut-il maintenant dire, mais l'ange c'est ça? Non! L'ange c'est pas la pierre. Oui. L'ange intervient pour toujours pour dire qu'il y a une finalité d'ordre divin. Non, on dit que c'est une pierre qui bouge. Quand on dit que c'est un ange qui intervient, c'est donc que l'explication naturelle n'est pas suffisante. Et on voit bien que dans les évangiles, l'explication naturelle n'est jamais suffisante. Vous avez ici un homme qui est remis debout. Ça arrive de temps en temps qu'un homme qui est impotent soit remis debout.
Dans ce cas que vous dites, les chrétiens de Jérusalem ont lu cet évangile aussi. Donc ça fait référence à une tradition style lourde qui se passe de la population.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on ne peut quand même pas se mettre à inventer que les gens, pendant des années, vont à cette piscine, qu'il n'y avait pas un phénomène, disons, social qui pouvait passer au culte du frère. Donc là, on peut jouer en contradiction, plutôt en disant, si j'imagine que c'est faux, c'est encore plus temps de croire qu'on est une écrit.
Exactement. Alors, justement, c'est pourquoi l'archéologie a essayé de voir, pour des choses pareilles, pour voir s'il y avait un fondement. Parce que, évidemment, s'il n'a jamais existé de piscine à cinq portiques à Jérusalem, alors on est en ordre de la fabulation. Il faudrait se demander pourquoi. Oui.
Comme Job, je vais à Paris après la guerre.
Nous faisons tout ça.
C'est ça. Il met sa main dans sa bouche.
Eh oui. Mais il y a quand même un lien étonnant et fort profond, même plus moderne qu'on imaginerait, n'est-ce pas? Il y a le vieux texte qui devance parfois la connaissance, ceci, l'eau, vous avez parlé. Eh bien, quand le bouillonnement de l'eau fait penser, moi, au bouillonnement primitif, non pas pour la création ici, mais pour la guérison. Donc le souffle de Dieu rend les eaux fécondes, la mer grouillait de vie nouvelle. Et puis alors, vous avez les eaux maternelles suggérées en Nicodème, n'est pas pu se renaître de l'esprit et comprendre tout de suite, retourner dans le grand
pas de la suite, hein, oui. Oui, il comprend comme ça.
Il comprend tout.
Il comprend pas, oui.
Et il faut dire que les eaux maternelles sont chaudes et un peu salées comme le ciel. Oui, c'est un milieu témoin de la vie, quoi. Disons, l'eau maternelle est un milieu témoin de la vie. Et alors, après ça, il y a l'eau douce. On quitte un peu l'eau de la mer pour arriver à la Samaritaine, l'eau qui entretient la vie, qui est le véhicule indispensable de tous les échanges humains. Enfin.
Oui. Oui. Mais des comparaisons comme tu fais, c'est ce que Saint-Augustin fait constamment. Non, mais Saint-Augustin passe constamment de l'un à l'autre comme ça. On voit que le monde symbolique, pour eux, était extrêmement important. Vous voyez, nous avons aussi des symboles. Il suffit de regarder la manière dont se fait la publicité. La publicité utilise constamment des symboles. Seulement, ces symboles sont des symboles qui disent une réalité, ou qui visent toujours une réalité matérielle. C'est-à-dire un contrat d'échange, d'achat et de vente. Et il faut faire passer l'achat et la vente, sans parler du prix, le moins possible du prix. Hein. Bon, on parle du prix dans la mesure où il est bas. Hein. Mais donc, il y a un type de symbolique qui agit. Et c'est très intéressant de voir quel type de symbolique agit dans nos civilisations modernes et quel type de symbolique agit, par exemple, il y a Rémi Lac qui a fait toute une étude sur le livre d'Isaïe, pour voir quel est le type de symbolique qui agit dans la tête d'Isaïe, comparé au type de symbolique qui agit chez nous. Il y a par exemple chez eux toute une vision de l'arbre, par exemple, il y a même un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « There is hope for a tree ». Il y a une espérance pour l'arbre. C'est un passage qui vient chez Job. L'arbre a toujours une seconde chance. On l'abat, mais de la souche peut renaître un second arbre. L'homme n'a pas cette chance-là. Il s'est abattu, il ne renaît pas de ses cendres. Et alors, quel est le type d'imagination qu'il y a chez les prophètes? Quel est le type d'imagination il y a chez Saint Jean, et il y a pas mal d'études qui se font. Et quelle est la différence entre notre imaginaire à nous? Quelle est la vision ou l'intentionnalité d'un imaginaire? C'est très intéressant. Mais on pourrait faire la même chose, je ne sais pas si ça a déjà été fait, peut-être bien parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai faites dans ce sujet. Vous savez qu'on a retrouvé tout récemment un recueil de sermons de Saint-Augustin que l'on ne connaissait pas. On a retrouvé récemment dans une bibliothèque, en Italie.
Pour voir
qu'il fait
des
frères,
on a retrouvé aussi l'un de ses critiques
lettres.
Il connaît,
mon père.
Et les grands journaux.
Je ne suis pas connaisseur de Saint-Augustin. Mais en fait, Saint-Augustin a un imaginaire de ce type-là, mais qui n'est pas de type écologiste. Et qui, cependant, rejoint une écologie moderne en quel sens? En ce sens que il nous dit de respecter la nature et de découvrir dans la nature une grâce de Dieu. L'écologiste d'aujourd'hui ne parlera pas de Dieu. Il parlera de respect de la nature à cause de l'homme. L'homme ne peut pas désagréger et détériorer son milieu, à son environnement. Mais donc, il y a un même type d'image, mais qui ressortissent de deux perceptions différentes. Une perception écologique moderne, une perception écologique, dirions-nous, mais qui a comme image Dieu, comme créateur. Et donc, c'est très intéressant de regarder tout ça. Quelle est la symbolique de l'eau dans les auteurs de l'Ancien Testament? Voilà un bon travail. Une bonne thèse de doctorat.
Comme quand on dit dans l'Apocalypse, de mer, l'océan, il y en aura plus. Quand on voit toute la diversité du sud Méditerranée, on dit nos paradis, on ne pourrait pas aller au monde.
Voilà.
On ne comprend pas le cas derrière les éléments.
Ah, mais parce qu'on ramène ce que nous disions tout à l'heure à propos du désir, on ramène les réalités à notre aujourd'hui, au lieu de convertir notre aujourd'hui à une réalité transcendante. Et justement, c'est ce qui apparaît dans les gens qui font des comparaisons entre les imaginaires. Et l'imaginaire, c'est le club méditerranéen. On fait des études de ce type-là aujourd'hui.
Jésus a pu expliquer dans son thème, ça a été pour lui, donc ça, il n'a pas pu être possible.
Impossible.
Est-ce qu'on peut dire qu'en lisant l'évangile de Jean, on apporte peut-être un peu plus que la façon dont il a dont il s'y est pris pour faire entre les gens qui s'aiment un peu en manière différente?
Je ne sais pas si on approche plus. Moi, je dirais qu'on l'approche différemment. Et je crois que je retrouve la même chose aussi bien chez saint Marc, Matthieu, Luc, et même chez saint Paul. Je retrouve la même chose, le même type d'explicitation du mystère, avec des variantes parce que les personnages sont différents. Mais c'est vrai que c'est une tâche impossible qui ne peut se réaliser qu'à travers le symbole. Le symbole agit dans notre vie au moment où la réalité matérielle, hein, le geste matériel, ou la parole ne dit plus ce qu'elle veut dire. Lorsque je parle de, scientifiquement, la parole dit exactement ce qu'elle veut dire, ni plus ni moins. C'est le langage qui est adapté et doit être de plus en plus précis. Point conclu, hein, le mettre sur ordinateur, le formaliser à l'extrême. C'est une utilité. Or, le symbole vise à dire pratiquement toujours l'indicible. Il renvoie toujours, symbole, symbolum, on met ensemble, on jette ensemble deux éléments pour dire une réalité, une reconnaissance, pour dire une alliance. Il dit toujours une réalité qui dépasse ce qu'il dit, qui renvoie à un au-delà de ce qu'il dit. Je ne peux parler de la mort qu'en symbole. Et au moment où je peux en parler, au moment où je la vis, je ne peux plus en parler. Je ne peux parler de l'amour qu'en symbole. Je ne peux parler de la vie, même si je peux donner des définitions particulières de la vie, c'est-à-dire ce que dire ou essayer de dire ce qu'est la vie sur le plan économique, je peux dire sur le plan sociologique, je peux dire sur le plan médical, je peux dire sur le plan juridique, une définition de la vie. Mais je ne dis pas ce qu'est la vie. Pour dire ce qu'est la vie, je dois en parler en symbole.
Mais même le langage scientifique poussé, qui nous paraît purement imaginatif, est à la limite symbolique au sens court. La tour de l'or, on ne l'a jamais vu, hein. Et le Big Bang est tout à fait des représentations purement théoriques. Et l'expérimentation y correspond, mais ce sont des représentations mythologiques à la limite aussi.
Oui, mais le langage est quand même clair pour celui qui l'entend.
Oui. On même sait si ça de quoi on parle.
C'est voilà. Tellement peu clair qu'on ne sait pas si la matière est continue ou discontinue.
C'est ça.
Donc on est dans, déjà de point de
contradiction, oui.
Et on dit que c'est les deux en même temps. À la fois corpusculaire et ondulatoire. Donc à ce moment-là, on se rend compte que ce que veut dire un corpuscule, parce qu'on ne savait pas dire qui est ondulatoire. Et donc là, si on en venait à cette extrême limite, c'est bien métaphysique.
Mais là, ce qui est important avec les termes de Saint-Jean, c'est que ce sont des termes de tous les jours. Il n'a pas un vocabulaire scientifique au sens où il est tout à fait particulier et donc hermétique. Il utilise des réalités absolument concrètes. Vie, lumière, ténèbres, dans les choses dont nous avons immédiatement une perception. Bon. Il renvoie à un au-delà de cette perception, mais il commence par vous parler de la perception.
Quand Jésus cache des œuvres, et que ce sont les œuvres qui cachent de lui, qui témoignent pour lui. En disant que il fait référence notamment au miracle.
Oh.
Au miracle.
Par exemple, mais pas seulement. Nommément, dans le passage en question, il parlait « Mon père œuvre toujours et moi aussi j'œuvre », mais c'est le fait qu'il remet debout le paralytique. Et je crois que « œuvre » ne renvoie pas seulement à cela. Il renvoie à des actions qui sont perçues comme des actions divines.
Là.
Oui, même à partir de choses tout à fait normales. Mais d'où le rapport avec Dieu est perçu. C'est ça que dit le peuple. C'est-à-dire que signe ne dit que l'extériorité qui interpelle. Et alors quand je creuse, je me dis, tiens, mais ce n'est pas une action habituelle, c'est une action de Dieu qui est centrale.
Le doigt, j'ai sur la main. Ah. Je vais le mettre comme ça. Oui. Mais Nathanaël, par exemple, je t'ai vu sur le figuier. Pour Nathanaël, c'est un miracle, enfin, spirituel, parce que c'est son secret d'un fort qu'il a eu. Il priait certainement, sur le figuier, il s'est dit, il n'y a que Dieu qui peut connaître cela. Et alors, c'est une œuvre de Dieu pour Nathanaël. Il a été découvert, il a dit ça. Et d'ailleurs, il dit, tu es fils de Dieu. Il n'attend pas comme Saint-Pierre, il n'entend pas le dire.
C'est comme Marie-Madeleine au tombeau.
Oui. Mais c'est celui qui va derrière le signe.
À son prénom, oui.
Oui. C'est celui qui va derrière le signe.
Oui.
Il va plus loin que le signe. Je peux voir un signe et ne pas voir la profondeur de champ de ce signe. Or ici, l'œuvre, c'est on rapporte le signe à l'action divine. Dieu agit à travers ce phénomène, ce moment, cette personne, cette action.
Je dis à Saint-Pierre, mais tu as dit qu'il n'y aura plus de mer, disais-tu, hein. Eh bien, malgré tout, les astronomes disent qu'il n'y aura plus de mer. Quand le soleil deviendra une géante rouge, eh bien alors il va gonfler, et en faisant ça, il brûlera. Il va trouver la mer, quand même.
On en parlera quand on dit.
L'assimiler, me l'assimiler à quoi ? Vous donnez vraiment la consistance au Fils. Ça, c'est important. C'est ma personne. Mais il le donne à travers un geste qui est à la fois symbolique et réel. Pas seulement symbolique, au sens où, au sens d'une métaphore. À cause même des paroles de Jésus, c'est vraiment la réalité de sa personne qui part en nous. Avec cette analogie de la maman qui se donne littéralement à manger, donne son lait à son enfant. Et bien sûr, elle donne plus que son lait, elle donne plus son amour, qui est beaucoup plus que son lait. Mais son lait est comme une matérialisation de son amour. Il y a un certain nombre de gestes matériels que nous disons, tout naturellement, et qui sont dans cet ordre-là. Et une grosse différence, c'est que la maman le fait naturellement, tandis que Jésus le fait à partir de sa propre parole. C'est quelque chose qui détermine sa volonté propre. Donc cette détermination-là ne peut jamais être séparée de la réalité du sacrement. C'est pourquoi nous disons, Jésus, la veille de sa passion, prenant du pain, et nous faisons ce qu'il a fait. Et nous racontons une histoire. C'est essentiel, ça. Et bien, nous imaginons cela. Nous racontons l'histoire de ce que Jésus a fait. Et vous voyez que l'institution égalistique, c'est un an. Du chapitre quotidien. Elle n'est pas au moment de la dernière. Donc l'institution eucharistique, c'est vraiment la révélation de Jésus. C'est le chemin d'alliance de Jésus avec l'humanité. Il devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc là, il a mis, dans ces six premiers chapitres, il a mis tout en jeu. Et il montre bien qu'il se donne à une communauté divisée. Hein? Tout le monde ne croit pas. Un qui croit, il croit. Et il dit aux apôtres, vous allez partir aussi. Ah,
Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce qu'il y a à dire. Vous pouvez partir. Vous n'êtes pas obligé de rester. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est l'acte de foi qui adhère à tout ce chemin de Dieu. Alors maintenant, puisque tes fois, en quelque sorte aboutis, même à travers de grosses difficultés et des combats à l'intérieur même de la communauté, va se poser la question de d'éprouver tes fois. Comment tient-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Et donc, il va falloir passer par l'objection radicale. Jésus, vient de se révéler, va être maintenant contesté. Et il faut attacher une ceinture quand on commence le chapitre 7 et 8 de Saint Jean. Généralement, hein, on n'est pas trop bleu, parce qu'ils vont. Ce sont certainement les deux chapitres les plus difficiles de l'évangile. Hein. Alors je vais vous dire à la deuxième partie du chapitre 1. C'est pratiquement un long avec au milieu de ce long discours un passage étrange et inattendu, celui de la femme adultère. Il est probablement pas le saint. Pour la bonne raison qu'il ne se trouve pas dans les premiers manuscrits, ni dans le Vatican, ni dans le Vatican, les anciens, les bons manuscrits, il ne se trouve pas. Et il semble avoir apparu dans les manuscrits vers le troisième siècle. La plupart des exégètes, ils reconnaissent, en analysant bien le texte, ils reconnaissent la facture, la main de Luc. Il semblerait donc que ce serait un passage de la tradition lucanienne, disons. Certains étaient de placer dans l'évangile de Luc, mais ce n'est pas facile. On le trouve parfois après le chapitre 21, il y a deux discours sur la tradition. Mais en tout cas, il a été inséré dans l'évangile de Jean et il est devenu une partie essentielle de ce long discours sceptique. Là, l'Église nous l'a transmis. Alors, vous aurez des éditions ou des commentaires qui mettent cela en parenthèse et qui n'en parlent pas. Ils vous mettent simplement une image. Et il me semble que nous avons à expliquer l'évangile tel qu'il nous est livré par l'Église et qui s'y engage, même si ce n'est pas de la même manière. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été mis entre le chapitre 7 et le chapitre 8. Non seulement parce qu'il se situe dans le temple, mais aussi parce qu'il est issu, mais une figure féminine, de la réalité que dit. Donc nous attachons la ceinture et on commence. Et après ceci, méta tonta. Les gens n'utilisent pas ce terme de n'importe quelle manière. Après ceci, il veut dire nous passons à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Avec beaucoup d'exégètes, c'est la césure à ce moment. Le méta tonta me semble très important. Il marchait Jésus dans la Galilée. Ah! Il était dans la Galilée, il marchait dans la Galilée. Car il ne voulait pas, dans la Judée, marcher. Il reste en Galilée, autrement dit, et il ne va pas en Judée. Pourquoi? Parce qu'il cherchait les Juifs à le tuer. Donc l'évangéliste ne dit pas d'être vécu. On n'a pas encore remarqué qu'il pouvait le tuer, mais voilà. Il nous le dit. Or, elle était proche, la fête des Juifs, le dressement de temps. Nous avons vu qu'au chapitre 10e, il parlait de la fête de la Pâque qui était proche. Ce terme-là a très bien remarqué, dans sa première édition de la Bible de Jérusalem, qu'il avait tout structuré dans l'évangile de Jean à partir des fêtes. Les fêtes du judaïsme, de mes fêtes dans l'Église. Donc, il parle là d'un contexte de fête qu'il appelle le dressement de temps. c'est la fête des, on appelle souvent la fête des temps, mais à tort, la fête de Soukhot. Soukhot, ce sont des petites habitations en branchage, et généralement les Juifs encore aujourd'hui, lorsque ils font cette fête, donc des Soukhot, généralement ils font ça, Soukhot, Souka, c'est Kara. Mais les Grecs ont traduit Souka par Kéhel, c'est-à-dire la tente. Alors ils en ont fait, donc les Grecs, en grec, Kénopédia, c'est-à-dire la fête où l'on traite les Kara. Les Juifs aujourd'hui, quand ils font un jardin, vont habiter pendant les 7 jours de la fête dans cette petite cabane, ils vont loger dans cette petite cabane. Pour marquer la précarité de la vie humaine et le fait qu'ils tiennent leur salut de Dieu. Comme les Israélites dans le désert ont habité des tentes. Et même quand ils ont une terrasse, vous voyez encore des gens qui mettent des branchages sur leur terrasse et dormir dans le salut de Dieu sur la terrasse. Et chaque pays a ses traditions, comme les cabanes. Vous avez les cabanes toutes faites, on a dans son collier, et quand on sort, on la sort des cabanes. Et donc c'est toute une liturgie qui se passait également, nous allons voir avec le texte, qui se passait à Jérusalem. Nous allons les voir. Nous avons d'abord une première fois. Ils dirent donc à son adresse les frères. Voilà qui est frais, interviennent, et il n'était plus la bienvenue depuis le chapitre 2.